On est en direct du Salon international de l'auto de Québec. Venez faire un tour. On est associé au kiosque de Roulé Passion. On est entouré de voitures exotiques. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a juste à côté de nous un kiosque de machines à boules nouveau genre 2025 avec des jeux vidéo intégrés. Techniquement, c'est fait pour les enfants, mais depuis que je suis ici, je vois beaucoup... des grands-enfants, un genre de 40, 50, 60 ans qui se font plaisir à jouer à la machine à boules nouveau genre. Ouais, mais c'est beau à voir. C'est des belles sorties familiales, Audrey. T'aurais dû être avec moi ici. T'aurais été ébahi.
Ben, je t'assure que l'année prochaine, je suis avec toi.
Ah, ben voilà. Il faudra que tu mettes de la pression auprès des patrons, mais je pense que tu as des bons contacts. 10h30, on l'accueille. On vous en a parlé tout à l'heure. C'est quelqu'un avec qui j'ai passé un genre de 60 minutes mardi à parler de microbiologie. C'est un gars que j'adore écouter, entendre. C'est un gars avec qui j'adore parler aussi. C'est le fondateur et président directeur général de d'Eurofin Environex, qui est microbiologiste. Son nom, c'est Marc Hamilton. Il est aussi président de l'Association des microbiologistes du Québec. Salut Marc!
Hey, salut Yannick, comment ça va?
Ça va très bien, très content de te retrouver. Toi, qui es un passionné de voitures, j'imagine qu'ici, tu es comme dans un terrain de jeu. Là.
Ah, écoute, je vais avoir de la misère à faire l'entrevue. J'ai les yeux tout autour de la tête. Honnêtement, on est dans une belle section où est-ce qu'on a des voitures un peu modifiées, des voitures antiques, ouais. Des voitures où est-ce que les gens vont offrir des services pour soit les pimper ou faire des traitements de peinture, etc.
Ouais.
Ah, écoute, c'est très impressionnant. Honnêtement, là, j'ai plusieurs heures de plaisir à regarder, poser des questions. Ah, écoute, c'est vraiment un beau salon. Là. Je pense que dans les dernières années, je pense que la première année qu'il y a autant d'inventaires, parce que j'ai toujours été dans les années précédentes. Puis là, cette année, pas mal tous les constructeurs, en tout cas, j'ai pas fait le décompte, mais sont ici. Puis il y a beaucoup d'inventaires. Tu sais, ceux qui ont des voitures électriques sont là, beaucoup belles couleurs, les modèles, les voitures sport sont là. Je pense pas qu'il y ait personne qui est, le constructeur qui ait boudé le Salon de Québec. Donc, je trouve ça très intéressant. Je pense que beaucoup de plaisir pour les amateurs de voitures et même ceux qui veulent, je pense, juste voir la technologie changer et magasiner une voiture.
Exact. Toi, tu as eu ta première voiture à quel âge?
Écoute, j'étais chanceux, mais mes parents, j'étais un fils gâté, j'étais un fils unique, puis j'ai eu ma première voiture, j'avais 16 ans. Imagine-toi, là, ben, c'est pas les voitures qu'il y a ici. Là. Écoute,
ouais.
Je sais pas si tu te rappelles, moi, j'ai eu une Suzuki Swift
en
1989.
Oui. C'était pas gros, ça.
Quatre portes, tu sais, rien de sport vraiment, avec un moteur 4 cylindres, 1,3 litres, 70 chevaux. Hey, ça roulait au bout, là, puis il fallait que j'aille le vent dans le dos, là, 140 km/h. Mais tu sais, okay. J'ai appris avec ça.
Ça consommait pas.
Ah non,
c'est pour ça qu'on avait ça.
À ce temps-là, on regardait pas ça, le gaz. Écoute, je mettais du super sans-plomb là-dessus, puis ça me coûtait 17$ gazer le char. Fait que, tu sais, on avait tout le temps ça, un petit 15$ dans les poches, puis on roulait 4-5 jours avec ça. Puis, tu sais, on veut pas, étant jeune, c'était la mode dans notre temps d'aller faire des tours de char. Tu sais, le soir, on n'a rien à faire. T'sais, aujourd'hui, on prend notre cellulaire, on fait des médias sociaux, puis on s'occupe de même Netflix. Mais là, dans mon temps, tu voulais avoir du monde, il fallait que tu sortes. Fait qu'on faisait des tours de char. Fait qu'on allait voir des amis, puis là, on se ramassait dans un centre commercial, puis on jasait, faisait des tours de char, puis des petits cafés à côté de là. Fait que la voiture était un moyen social beaucoup plus qu'aujourd'hui.
Tu voulais aller au cinépark, ça te prenait un gros coffre.
Exactement.
Parce qu'on sortait quatre gars, puis nos blondes étaient couchées dans le coffre pour pas que ça nous coûte trop cher. C'était le bon temps, Marc.
Ça fait pas si longtemps que ça, quand même. Là. Écoute, on a l'air à des petits filles quand on dit, hey, cinépark.
Si je peux vous rassurer, les gars, là, je faisais ça adolescente aussi. Fait que c'est pas si vieux que ça qu'on a perdu le principe de l'auto sociale.
T'as-tu déjà compté le nombre de véhicules que t'as eu? Là, t'es dans jeune cinquantaine. Là. Moi, j'en ai compté, dans ma vie, j'en ai compté 16.
Et crime. Écoute, honnêtement, là, présentement, j'en ai 12.
Présentement, t'en as 12?
J'en ai 12, mais ce que j'ai eu avant... comme driver, parce que dans les 12, c'est pas tous des drivers, on s'entend, des voitures de collection, mais honnêtement, je dois être rendu... Écoute, je te dis, j'ai pas fait le décompte, je prends le temps de les écrire, là, parce qu'il y en a qui n'ont pas duré longtemps dans ma vie, mais je les ai eu quand même. Peut-être une trentaine, hormis les 12 que j'ai, là, peut-être 25-30, c'est dans ces chiffres.
OK, mais c'est quand même bien. Puis toi, écoute, t'es un collectionneur. On m'a souvent dit qu'il y a des véhicules de collection qui prennent de la valeur avec le temps. Fait que toi, pour toi, les voitures, c'est aussi un investissement. C'est une passion, mais c'est aussi un investissement.
Oui, bien effectivement, ce qui arrive, c'est que les voitures, on ne fait pas d'argent au jour 1. Il faut être patient, les garder 2, 3, 4, 5, 10 ans. pour voir comment le marché va réagir, comment ces voitures-là vont se classer comme voitures de collection.
Ouais.
C'est arrivé des fois que j'ai misé sur une voiture que, bon, finalement, je l'ai vendue moins cher que je l'ai achetée. Le marché n'a pas fait que c'était payant de la garder.
Uh-huh.
Mais d'ordre général, ils disent toujours de garder une voiture au moins, si tu veux aller chercher du potentiel, 10 ans. Donc, c'est sûr que, moi, je te dirais la différence que j'ai entre un vrai collectionneur qui, lui, c'est des bibelots, il met ça dans son salon, puis il attend 10 ans, puis il roule. Moi, je les prends toutes mes voitures. Les gens, là, me regardent, ils disent « Marc, tu prends ton Plymouth Superbird, tu sois des 10, puis tu vas rouler avec. »
Oui.
Je dis « Oui. » Ben écoute, Marc, c'est que t'arrives, si tu te brises ou quoi que ce soit. Je dis « Je m'en fous. » Je dis « Moi, j'ai investi pas juste pour, exemple, attendre qu'elle prenne de la valeur.
Ouais.
J'ai du fun à l'utiliser. »
C'est le plaisir.
Puis je les prends toutes, dans toutes les... Puis là, s'il y a une petite crache dessus, je la fais réparer. S'il y a une petite fuite d'huile, je la fais réparer. Mais mes voitures roulent. Fait que ouais. Moi, demain matin, n'importe quelle voiture que j'ai, je décide d'aller à Montréal avec, je tourne la clé, puis je pars avec.
Mais quand tu arrives chez Ronald McDonald avec ta DeLorean, là,
oui.
Ça doit être particulier pour la personne qui est au service au volant.
Bien, au service au volant, m'a dire une chose. Il faut que j'ouvre absolument les portes parce que la fenêtre latérale d'une ouais. DeLorean, ça rouvre à peu près 6 pouces.
OK. Fait
que le trio Big Mac passe pas, là. Fait que c'est toujours, t'arrives à côté, puis la voiture est très basse. Fait que
ouais.
Là, faut quasiment que tu te lèves la tête pour aller chercher ton stock. Mais là, la personne, elle regarde, puis elle comprend pas c'est quoi cette affaire-là. Parce
ouais.
Que souvent, les gens ne le connaissent pas. Puis là, je rouvre ma porte, je prends le stock, je la referme. C'est sûr que ça crée toujours un émoi des gens qui suivent, des gens qui attendent. C'est sûr que quand tu prends une DeLorean, c'est une journée qu'il faut que tu sois très souriant.
Oui.
Parce que si tu le prends, puis tu files pas, puis t'as pas voulu voir personne, puis t'as le goût de faire un coup vite pour te rendre travailler, c'est peut-être pas la voiture idéale.
Ouais.
Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un dans ton angle mort, il y a tout le temps quelqu'un quand t'arrêtes de gazer, là, t'es fait, ça peut prendre 20-25 minutes.
Mais c'est de la nostalgie, la DeLorean.
C'est la nostalgie, ouais. Puis c'est un véhicule qui, malgré son âge, elle a 41 ans, elle a été faite à 81. C'est une voiture qui a 44 ans. Et elle ne démode pas parce que les films, comme Retour vers le futur, ça passe 4-5 fois par année.
Ouais.
Fait que les petits-enfants de 4-5 ans, quand ils la voient, ils l'associent facilement. Fait que c'est une voiture qui est intemporelle due à ça.
Exact, exact. Audrey, as-tu des questions pour Marc là, pour ce qui est du monde de l'automobile?
Et moi, je suis fascinée, là, 12 véhicules.
As-tu déjà ressenti ce que c'était le matin quand tu te lèves, faut que tu choisisses entre deux voitures pour aller à la job?
Et je t'annonce que je ne le ressentirai jamais, bon. Probablement.
Mais imagine-toi 12 voitures.
C'est capoté. Mais en fait, d'où est venue cette passion-là de vouloir accumuler les véhicules? Parce qu'on dirait, 12 voitures, t'aimais où, Marc?
Ben, écoute, c'est sûr que c'était un problème jusqu'en 2018 lorsque on s'est construit une maison avec 6 portes de garage puis pouvait stocker 15 voitures à même la résidence. Il y a même des voitures qui vont dans le sous-sol. J'ai une rampe qui va dans le sous-sol. Je peux mettre 3 voitures dans le sous-sol. J'ai un garage détaché avec des lifts qui les montent dans les airs. Donc, c'est sûr qu'avant 2018, je n'avais moins. Je n'avais 4. Puis à partir de 2018, là, j'ai eu de la place. Là, je me suis mis à en accumuler. Mais ma première voiture de collection,
ouais.
Je l'ai achetée en 2009. C'était la DeLorean.
Oui, OK.
Que j'étais allé chercher, imagine-toi, au Texas, à Houston. Fait que je m'en rappellerai tout le temps. J'appelle le gars de Houston, qui est un endroit où est-ce qu'il vend des DeLorean, DeLorean Motor Company à Houston. Là, je la rappelle, je dis, écoute, je voudrais acheter une DeLorean. OK, parfait. Bien, je vais aller la chercher, puis je vais revenir, je vais prendre l'avion, puis je vais revenir sans pouvoir parvenir. Là, le gars, il me parle, il dit, es-tu fou? Il dit, la voiture que tu achètes, ça fait 5 ans qu'elle n'a pas roulé. Là. Elle est bien belle, la mécanique est bonne, mais il n'y a jamais personne qui l'a testée. Tu sais, voulant dire, entendez prendre une crème glacée puis se taper 4000 km, ouais. C'est deux choses.
Mais toi, c'était ton aventure.
Non, moi, écoute, j'étais petit cul dans ce temps-là. Là. Écoute, rajeunis-moi de 15 ans, j'avais 35 ans. Puis, je pars avec mon meilleur chum, on prend l'avion, on arrive là-bas. Fais un petit cours 101 la DeLorean avec les gars là-bas. Je pars de la clé puis je m'en vais au Québec. Puis là, c'est sûr que je me suis donné une liste d'épicerie puisqu'il y avait plein de petits problèmes qui ont apparu. Mais
ouais.
Je me suis rendu. Ça a été un méchant beau trip. Puis
ben
écoute, aux États-Unis, encore plus qu'au Canada, la DeLorean est encore plus adulée aux États-Unis qu'elle l'est au Canada. C'est curieux. C'était les mêmes problématiques pour tout ce qu'on arrêtait. Mais ça a été ma première. Après, j'ai eu ma deuxième que je n'ai plus maintenant. J'ai vendu. C'était la Bricklin. La
oui.
Bricklin, je ne sais pas si les connaisseurs de voitures savent peut-être, c'est une voiture canadienne qui a été construite à Saint-Jean-de-Nouveau-Brunswick entre 1974 et 1975. Ils ont construit 2500 voitures à l'époque. Et la compagnie a fait faillite parce qu'un manque de fonds. Puis bon, le gouvernement avait prêté de l'argent, mais pas assez. Puis ouais. ça a tombé après 2500 véhicules, après 2 ans. Et j'en ai eu une pendant 8 ans de temps, de 2012 à 2020-21. J'ai eu du fun avec ça, mais c'est pas une voiture qui j'ai rentré dans mon investissement. Je ne l'ai pas vendue beaucoup plus cher que ce que je l'avais acheté. C'est pas une voiture qui, malgré que je pensais qu'elle allait prendre de la valeur avec le temps, elle n'a pas coté. C'est une voiture qui reste quand même, je dirais, reconnue, mais fantôme au niveau de la valorisation.
OK.
On a des exemples comme ça qui des fois, prend des chances.
Oui. Fait que c'est ça, Audrey. Pour entreposer 12 voitures, ça prend une blonde conciliante qui accepte d'avoir une voiture dans son walk-in.
Avec 6 garages. Je prends des notes, mais je trouve ça... Honnêtement, Marc, écoute, tu m'enverras des photos. Je suis vraiment curieuse.
On reçoit Marc en tant que microbiologiste aujourd'hui. C'est pas juste un passionné de voitures, c'est un microbiologiste aussi. Tu voulais parler de ton frigidaire, Audrey, avec Marc.
Bien, en fait, de nourriture et de bactéries, je trouve ça quand même assez intéressant parce qu'on connaît les dates d'expiration puis toutes ces affaires-là. Là. Puis il y a des gens comme toi qui, si ça pue, tu comprends, ils mangent pas, sinon ils mangent. Et il y a des gens comme moi qui respectent ce qui est écrit sur le pot par peur d'empoisonnement, là, tu sais. Fait que je me disais, il y a certainement des choses qu'on connaît pas sur ce sujet-là. Puis Marc,
Mais posons-lui la première question. Marc, est-ce que les dates d'expiration, toi, en tant que microbiologiste, tu y fais vraiment attention ou tu es un peu comme tous les bons pères de famille, c'est-à-dire que quand il y a des restes dans le frigidaire, ben tu manges les restes, puis tant ou son temps que ça pue pas, tu y vas.
Ben écoute, il y a une différence entre date meilleure avant et date d'expiration, que j'appellerais ça plus une date de péremption.
OK.
Une date meilleure avant, comme on voit, exemple, sur les pains de lait, qu'on va voir sur les yogourts, qu'on va voir les best before meilleurs avant, ça veut dire que le produit, jusqu'à la date qui est indiquée, garde son aspect physique, son odeur, sa couleur, son apparence, juste garantie jusqu'à cette date-là. Donc, qu'est-ce qui se passe entre la nuit où est-ce qu'elle passe date, du moins que le best before est passé date? Bien, à ce moment-là, en principe, il est encore consommable. Donc, c'est pas quelque chose qui va virer au vinaigre, qui va devenir impropre à la consommation. C'est tout simplement quelque chose qui... Ah, il va devenir plus liquide, il va changer un peu de couleur, la consistance va changer, peut-être un peu même l'odeur. Mais on peut garder, exemple, le lait, on le sait. Tant qu'il n'est pas caillé, on le boit. Le yogourt, tant qu'il n'a pas changé de goût, vraiment, de consistance qui vient dégueulasse, on va le manger. Moi, j'ai des yogourts qui sont pour ces dates de 2 mois, puis ils sont encore bons. Donc, puis moi, je trouve que les dates de best before devraient être modifiées pour éviter le gaspillage alimentaire.
Ouais. Mais est-ce qu'on joue un peu avec ces fameuses dates-là dans l'industrie alimentaire pour être sûr et certain que ce qu'on met en place, bien, ce soit consommé le plus rapidement possible pour pouvoir en racheter d'autres?
Nous, on en fait ce qu'on appelle des tests de durée de vie au laboratoire. Où est-ce que... une date de meilleur avant, on fait? C'est tout simplement de garantir au consommateur que qu'est-ce qu'il mange gardera sa même apparence, son même goût, même couleur pendant toute cette période-là. Après cette période-là, les tests en laboratoire disent « Oups, il y a une dégradation qui peut commencer à se faire et on ne garantit plus les mêmes specs d'origine.
Voilà. »
Mais à quelque part, ce qu'on pourrait faire pour y augmenter, c'est d'écrire sur le pot en question que le produit, même s'il est passé date, entre guillemets « best before », il peut changer de consistance, il peut changer de couleur, mais il reste propre à la consommation.
Mais est-ce que ce sera leur avantage?
Bien, c'est sûr que tu veux vendre des produits.
Exact.
Hein? C'est évident que si tu dis là demain matin, peut-être que tu vas en vendre un peu moins. Peut-être que les gens vont attendre que le produit vienne à 5-6 jours avant la date de péremption pour l'acheter à rabais. Donc, mais il reste que pour être conscientisé, d'agir comme ça, c'est toujours éviter le gaspillage alimentaire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en parallèle.
J'ai un chum à maison qui te plairait, Marc, parce que le yogourt, tu donnais ça en exemple, s'il y a une petite croûte ou de la petite mousse qui commence à se former, là, lui, avoir le réflexe de juste enlever ça, rebrasser, tu comprends, puis reconsommer comme s'il n'y avait pas de problème. Est-ce que quand il y a la petite mousse, c'est un peu la limite ou réellement c'est encore consommable? Ben, j'essaie d'y apprendre les limites parce que moi, je touche pas à ces affaires-là, on s'ostine là-dessus, là.
Quand il y a des traces de pénicilline sur le produit, c'est encore correct.
Ouais. Ben, écoute, c'est sûr que quand on voit des petites mousses, ou exemple comme le pain, on voit qu'il y a des petites mousses vertes qui s'installent sur le pain, ben, c'est un signe qui est peut-être rendu à la fin de sa durée de vie utile. Est-ce que c'est propre à la consommation? Ben là, c'est sûr que il n'y a pas je ne crois pas qu'il y a de risque à manger un yogourt qui a des petites mousses dessus. C'est juste que les moisissures ou les bactéries qui sont à l'intérieur de celui-ci bien, ont commencé à proliférer. Et les bonnes bactéries se font envahir par les bactéries qui vont commencer à dégrader le produit, parce que le but d'une bactérie à la longue, c'est de dégrader dans laquelle elle vit pour le biodégrader. Donc, c'est sûr que ça crée un aspect différent. Mais par contre, si ton chum n'a pas de problème à enlever ça, je pense pas qu'il y ait un problème pour sa santé.
Puis qu'est-ce qui fait que y a des gens qui vont peut-être être plus tough, je vais dire, intérieurement, à des produits qui sont passés date que d'autres? J'ai l'impression qu'on n'a pas tous les mêmes anticorps à ce niveau-là.
Bien, il y a des gens qui sont très fragiles. Hein? Prenez un exemple. Du steak. Bon, je veux juste faire un petit parallèle.
Ouais.
Du steak haché qu'on garde au frigo, qu'on a fait dégeler, puis qu'on dit, ben, je vais le mettre au frigo après, ben, pour le faire dégeler. Selon toi, combien de jours on doit garder un steak haché au frigo avant de le faire cuire?
Eh hey, mon Dieu, ben là, moi, je suis un peu débile, mais moi, quand ça dépasse 3-4 jours, j'ai vraiment de la misère.
Ben 3-4 jours, t'es déjà over.
Ah, oh, oui!
Si on veut éviter qu'il y ait des mauvaises bactéries qui s'y installent, bien, c'est 48 heures au frigo, oh, une viande qui est non cuite en tant que telle.
Fait que tu te fies pas à quand couleur, fait... là.
Ah non, mais même si ça virait... Tu sais, des fois, on voit la viande noircir un peu parce que le sang, c'est comme sorti de la viande. 48 heures à température de frigo, un steak haché ou n'importe quel type de viande, du poulet, n'importe quoi, c'est la moyenne à ne pas dépasser. Cependant, quelqu'un il me dit, voilà, Marc, ça fait 48 heures que mon steak est dans le frigo, mon steak haché, si je le fais cuire, puis combien de temps que je peux le garder un coup cuit au frigo? Selon toi, un coup qu'on a fait cuire une viande, n'importe quelle mets, que ce soit un cipaille, un cipote, une tourtière, n'importe quoi, un pâté chinois qu'on garde au frigo, là, après qu'il ait été cuit, combien de jours on peut le garder au frigo?
Mais dans ma tête, c'est max une semaine, 6-7 jours.
Oui. Moi, c'est 4-5 jours.
C'est 4 jours.
4 jours.
Puis là, c'est là qu'on voit la résistance d'une personne à l'autre à garder, à avoir un aliment qui a passé plus que 4 jours. Le problème qu'on a, c'est que prenez du steak haché ou n'importe quel, mettons un steak haché par exemple non cuit, puis qu'on décide de faire cuire après 4 jours. OK? Là, après 4 jours, tu vas dire, ouais, mais s'il y a des bactéries, la cuisson va l'éliminer.
Hein? Ben oui, c'est ce qu'on se dit.
Donc, c'est sûr que si tu as un colis dedans, si tu as une mauvaise bactérie qui pourrait te rendre gravement malade, si tu la fais cuire bien comme il faut, est-ce que ça, je vais avoir une problématique? Bon, c'est vrai que côté bactérien, vous allez être correct. Cependant, une viande fraîche qui est au frigo, passée 2 jours, elle va commencer à se dégrader. Et un produit de dégradation enzymatique d'une viande, on appelle ça de la putrécine. De la putrécine, c'est ce qui fait en sorte qu'on appelle, c'est une enzyme qui va inciter à la putréfaction. Donc, c'est ce qui va donner une odeur moins bonne à ta viande. Moi, il me semble qu'elle sent pas bonne, la viande, dans le frigo. Là, on dit, oh, c'est peut-être l'odeur et peut-être le fait que faut que je l'achète. Mais les gens vont dire, ah, mais je m'en fous, je vais la manger pareil parce que si je la fais cuire, ça va enlever les odeurs. OK. Les gens le mangent. Mais la putrécine qui est dans la viande, elle s'enlève pas quand tu le fais cuire. Fait que l'enzyme qui donne la mauvaise odeur, bien, quand tu la manges, elle peut te rendre malade. C'est ce qu'on appelle, rappelle-les-vous, t'étais peut-être pas né dans ce temps-là, Audrey, mais dans les années 70, il y a eu le scandale de la viande avariée. Où est-ce que, justement, ils prenaient du steak haché, puis ils le faisaient cuire, et ils le distribuaient en disant que la viande est bonne en consommation, mais elle l'était plus. Fait que les gens mangeaient du steak haché qui contenait de la putrécine dedans et se rendaient malades parce que la putrécine, pour certaines personnes, je dis pas toutes les personnes, il y a des gens qui se rendaient malades pour rien, des indigestions, des vomissements, à des réactions de la putrécine. Donc, c'est pour ça que tu as le phénomène bactérien qui peut rendre malade et tu as le phénomène de dégradation naturelle d'une viande, ce qui fait que ça sent pas bon, c'est la putrécine. Et la putrécine peut causer des malaises gastriques, vomissement, peut-être même, peut-être pas à créer une infection, mais vraiment, je dis, j'ai une bonne diarrhée, j'ai vomi, mais la putrécine peut causer ces effets secondaires.
Est-ce que c'est la même chose? Bien, en fait, c'est une intoxication alimentaire.
Carrément.
C'est carrément
une intoxication alimentaire,
voilà,
qui peut être bactérienne, qui peut être enzymatique, mais ça rentre dans la famille des intoxications alimentaires.
Marc, j'ai le goût d'avoir de l'air intelligent. Fait que moi, je connais déjà la réponse. Fait que je vais demander à Audrey, qu'est-ce qu'elle fait? T'as un poulet à faire cuire.
Mm-hmm.
T'as une dinde à faire cuire. Est-ce que tu la laves avant ou tu la fais cuire tout simplement une fois que tu l'as sortie de ton emballage? Moi, dans mon cas, je l'ai toujours lavé avant.
OK.
Toi, de ton côté?
Je ne l'ai jamais lavé avant.
OK. Marc, c'est quoi la bonne réponse?
C'est Audrey qui a la bonne réponse.
J'ai eu peur.
Mais tu sais, la raison, les gens disent, ouais, mais là, tout le monde dit, c'est bon de laver vos fruits et légumes. Ouais. Pis, mais la viande, c'est complètement différent. Puis je m'explique. Quand on prend un poulet, qu'on prend une dinde qui est gelée, puis on le fait dégeler, OK? Puis faire toujours dégeler une dinde et un poulet, pas sur le comptoir, hein? Faites-les dégeler, même si ça peut prendre une journée ou deux de plus, au frigo. Si vous voulez faire un coup vite, mettez-les dans l'eau, de l'eau à température, dans le frigo, dans de l'eau, ça va dégeler plus rapidement, le fait que l'eau va rentrer dans le tissu. Mais un coup qu'on est prêt à la faire cuire, puis que vous l'avez fait dégeler, pas dans l'eau, par exemple, prenez-les, préparez-les, mettez-y les épices que vous voulez autour, puis mettez-les au four directement. Parce que la peau d'une dinde, la peau d'un poulet, est bourrée de bactéries. OK? Ça peut être des bonnes, des mauvaises étant souvent des salmonelles. Et là, ce qu'on fait, c'est que si on décide de la laver, « Ah, tu sais, moi, j'ai décidé de laver ma viande parce que j'ai une conscience que je ne la rendrai pas malade. » Et là, on la lave, on met nos mains sur la peau. Là, parce qu'une dinde, c'est quand même encombrant là, dans l'évier. Fait que là, on spray de l'eau, on met de l'eau partout. S'il y a des bactéries à surface de sa peau, bien, vous allez en avoir dans les mains, vous allez en avoir sur les ustensiles, vous allez en avoir autour du lavabo. Et là, sans savoir, vous contaminez tout ce qu'il y a autour de votre espace de travail. Et c'est là qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une contamination croisée. Mmh. Entre un couteau qui a touché l'eau, entre un légume qui a touché l'eau de rinçage. Et c'est comme ça qu'on peut s'auto-contaminer, si tu veux, en lavant une dinde ou un poulet avant consommation. Donc, conseil, si vous faites cuire un poulet, une dinde, mettez-les directement au four.
Ouais, puis moi, c'est ma grosse peur, Audrey, parce que ayant travaillé dans la restauration toute ma vie, j'ai été au fait de ça. Tu sais, les éclaboussures, les outils de travail qu'on utilise avant et après que le produit soit cuit. Puis chez nous, là, en fait, j'ai eu quelques conjointes depuis mes premières années de restauration. J'ai tout le temps réussi à pogner quelqu'un qui reprenait les mêmes outils. Puis là, ben ça, c'est des dangers de salmonelle.
Les gens
sont pas tout le temps au fait de ça. Non.
Puis pour les... Moi, j'ai des grandes allergies. Puis me dire que pour les allergies, ça, les contaminations croisées, là, tu fais bien attention. Marc, tu parlais du fait de nettoyer ses fruits et légumes. Ça, j'imagine que c'est une bonne chose. J'ai déjà vu du monde nettoyer ça avec du savon. La pandémie, entre autres. C'est-tu une bonne affaire?
Exagéré. Bien, moi, je pense que... Nous, on a fait des tests au laboratoire pour voir quel était le meilleur, du moins, produit pour éliminer à la fois les bactéries à la surface des fruits et légumes, mais surtout les légumes qu'on va manger crus. Quand on les mange cuits, c'est tel que tel, parce que, bon, les bactéries vont disparaître par la cuisson, mais surtout les fruits. Et on a essayé de l'eau. On a essayé de l'eau puis du savon, du savon maison, là, genre Rivori, des choses très, très légères, et un savon commercial. Qui disent, sprayez ça sur vos fruits, brossez-les, lavez-les. Et on a testé les bactéries et les pesticides, que bien souvent, les fruits et légumes qu'on consomme contiennent quand même, c'est pas tous des fruits bio. Hein. Quand c'est écrit bio, on peut faire confiance qu'il n'y a pas de pesticides à la surface. Souvent, les gens n'achètent pas bio parce que c'est plus cher, donc on peut préconiser qu'il y en a. Donc, pour enlever tout ça, on a testé tous les produits. Et le meilleur des produits, où est-ce qu'on n'a quasiment pas eu de différence, c'est tout simplement de l'eau. Si on est capable de rincer avec un lave-légumes, là, à un jet un petit peu plus raide, là, vos fruits que vous allez consommer frais, mais juste de l'eau, c'est suffisant. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est quand on prend d'autres choses, comme du savon ou d'autres choses, le problème, c'est que le savon, les ingrédients du savon, on rajoute un ingrédient de plus qu'on ne veut peut-être pas avoir à consommer. On ne sait pas de manger du savon ou de manger des produits dérivés du savon si ça a un effet secondaire sur la santé à la longue. Donc, nous, on se dit... Moi, je ne conseille pas des gens de prendre du savon ou d'acheter des produits pour laver des légumes ou les fruits. Juste de l'eau. Essorez vos fruits. Si vous avez une chance de brosser la surface de votre fruit, comme un exemple, prenons juste un cantaloupe.
Ouais.
Le cantaloup, il est plus dur parce que lui, sa surface, sa peau est pas mal rugueuse, crenelée, il y a des petits trous dedans, qui fait que des fois, juste l'eau, c'est pas suffisant. Des fois, on peut prendre simplement une brosse, brosser pour aller pour que l'eau puisse rentrer dans les petits trous, pour enlever les bactéries qui peuvent être potentiellement pathogènes, parce qu'on sait qu'à chaque année, il y a toujours des intoxications alimentaires de fruits importés ou même des légumes qu'on mange crus, entre autres la salade, qui bien souvent, on me rappelle, la laitue romaine, il y a à peu près 2 ans, il y avait eu une contamination à la E. coli. Donc, les laitues, comme quand on veut se faire une bonne salade César, lavez comme faut votre laitue qui va servir à faire votre salade, passez-les à l'eau, enlevez les résidus de sable, bien souvent qu'il y a dans le fond, ou le cœur, et déjà là, on vient d'enlever plus de 90 % de ce qu'on ne veut pas consommer.
T'es-tu toujours avec nous, Audrey? Parce qu'on dirait que tu es plus blanche que tantôt.
Non, mais c'est parce que là, je me rends compte. Je dois avoir des méchants bons anticorps parce que Marc, honnêtement, là, je ne lave aucun fruits et légumes. Je consomme tout simplement. Je vais-tu mourir?
Ouais.
Je vais-tu...
Moi, moi, je les lave tout le temps. Puis j'ai conscientisé mes gars aussi. J'ai vu des documentaires.
Mais quand je reçois, oui, mais pas pour moi.
Ouais, mais tu sais, les documentaires que j'ai vus, là, quand le gars il est avec son masque, là, puis il est en train d'arroser là, les fruits et légumes qui s'en viennent chez nous, tu sais, c'est sûr et certain qu'à partir du moment où j'ai vu ce documentaire-là, je me suis dit, je lave absolument tout ce que je vais mettre dans mon assiette. Il y a des produits là-dessus qui empêchent les petites bébêtes, justement, d'attaquer. Là.
C'est quasiment impossible de vivre sans pesticides sur la planète.
Ouais.
Je disais ça l'autre jour à un agriculteur. T'es-tu pour ou contre les pesticides? Il dit, moi, demain matin, je ne mets plus de pesticides sur mes légumes. Il dit, je fais faillite.
Ouais.
Il dit, je peux pas me permettre qu'il y ait une invasion de bestioles, de pucerons, de sauterelles, ou peu importe, qui viennent manger mes légumes. Et on sait aussi que les gens, aujourd'hui, veulent des fruits et légumes le plus parfait possible. T'as une carotte croche, tu vas la donner aux animaux, ou tu sais, c'est pas tout le monde qui en veut. Fait que les gens disent que les pesticides nous permettent d'éviter des catastrophes au niveau de nos récoltes. Donc, c'est pour ça que quand on mange bio, qui par défaut veut dire qu'on utilise, exemple, aucun pesticide ou insecticide, peu importe, ben c'est sûr que ça coûte plus cher pour ces raisons-là, parce qu'on vit qu'un risque qu'il y ait des pertes au niveau de la production.
Mais là, peux-tu nous rassurer, Marc, parce que moi, la question me pend encore en tête. Là, si on est une gang à pouvoir rincer nos fruits et légumes, on est dans quel état, là? On est ben, correct?
C'est comme... Il n'y a pas vraiment d'études à long terme ou de quelqu'un qui dit, regarde, moi, j'ai mangé mes fruits non bio pendant 10 ans de temps, j'ai-tu accentué un cancer ou quoi que ce soit? Ben, c'est sûr que si on prend la molécule du pesticide en tant que telle, puis, on en prendrait un verre d'eau, là, ou quelque chose de genre, mais on pourrait en mourir, ou, tu sais, on en aurait des séquelles. C'est sûr que le problème qu'on sait pas, c'est toujours la petite quantité, un petit peu tout le temps, ouais, pendant 15-20 ans de ta vie, jusqu'à où que ça va t'occasionner des problématiques collatérales au niveau de ton système digestif ou neurologique. C'est quelque chose qui on peut pas préconiser, mais que si on peut l'éviter à la base, ben on va le faire. Donc, c'est ça qui fait en sorte que si on peut avoir minimalement le réflexe de les rincer, bien, on vient de s'enlever cette problématique-là qu'on ne peut pas encore quantifier, on se parle.
Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens, Audrey, Marc, qui sont, je sais pas moi, ils sont en Inde ou encore au Mexique, eux autres, ils prennent l'eau de la place sans aucun problème. Puis nous, on est tellement dans un monde aseptisé, puis on en a parlé, toi et moi, avec Audrey, il y a de ça quelques semaines, on est tellement dans un monde aseptisé que si on va en Inde puis on prend de l'eau là, qui est disponible peut-être à la Champlure, c'est sûr et certain qu'on va être malade, oui, à côté. Puis au Mexique, c'est la même affaire. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous autres, on a choisi ce mode de vie-là où on est tellement aseptisé que si on a une attaque de bactéries, ça se peut qu'il se passe de quoi dans notre corps?
Bien, c'est la problématique ou l'avantage, je ne sais pas comment tu vois ça,
c'est ça,
des pays industrialisés.
Ouais.
Les pays industrialisés, bon, le G20 par exemple, eux autres ont les moyens de mettre des réglementations en vigueur, d'avoir des chercheurs, d'avoir des laboratoires qui vont étudier toutes les bactéries pathogènes qui peuvent être potentiellement mortelles pour l'être humain. La personne qui vient d'Inde, du Mexique, c'est sûr que tôt ou tard, elle va tomber malade, peu importe la raison. Elle va attraper un virus de son côté, elle va attraper une bactérie parce qu'elle en a trop mangé. Le système immunitaire a quand même ses limites. Mais c'est sûr que quand tu regardes un peu ce qu'on a vécu, du moins pas nous, mais je veux dire, les médias l'ont rapporté, au Mexique, le fameux resort où tout le monde était malade.
Mmh.
Bon, puis là, c'est tout le monde, puis c'est souvent les résidents n'entendaient pas parler. C'est parce que ton système immunitaire s'adapte avec ce que tu lui donnes à combattre. Fait que si de ta naissance, tu as toujours été, il y a eu des bactéries, il n'y a pas de chlore dedans, elle n'a pas été filtrée. Ton système immunitaire devient beaucoup plus tolérant à la présence de quelques bactéries qui peuvent être potentiellement pathogènes et ton système va l'intercepter et l'éliminer. Nous, en tant que tel, on boit de l'eau qui n'a pas de bactéries pathogènes dedans. Si elle est moindrement pathogène, ça vit d'ébullition. Puis, tu sais, tantôt, on parlait d'aliments, sont testés à votre consommation. Donc, c'est sûr que d'être toujours vierge, notre système immunitaire n'a jamais été en contact avec une bactérie pathogène et il n'a pas créé, du moins, d'entraînement immunitaire par rapport à une bactérie pathogène, on va réagir instantanément. Donc, le but de vivre dans un milieu aseptisé, c'est strictement dans un milieu industrialisé où est-ce qu'on est fou de la propreté, on est fou d'avoir les produits les plus purs possibles. Et c'est ce qui fait en sorte que l'effet collatéral, c'est que lorsqu'on s'en va dans un endroit où est-ce qu'on est exposé, bien, notre corps il n'a jamais été en contact avec ces bactéries-là. Puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Il devient réactif. Et là, on devient malade parce qu'on n'a pas, au préalable, développé suffisamment d'anticorps spécifiques par rapport à cette bactérie-là ou cette moisissure-là qui est couramment dans les eaux, dans les aliments des pays les moins favorisés.
Audrey?
Tantôt, Marc, on parlait de viande, puis d'affaires au frigo, puis de bactéries qui se développent. Puis tu nous as dit que la viande, un coup cuite, ça ne durait pas si longtemps que ça au frigo. J'ai pensé automatiquement à toutes ces entreprises-là qui font des plats préparés, frais, qui te remettent, et tu en as pour 7 jours. Comment ça fonctionne au niveau de ces entreprises-là? Parce que moi, je consomme d'une compagnie, puis je la nommerai pas, mais je mange le poulet ou la viande jusqu'au 7e jour parce que c'est ce qu'on me dit de faire, là.
Bien, écoute, bien souvent, ces gens-là vont avoir des trucs pour de cuisson différents des autres, l'emballage va être sous vide, ils vont avoir fait des tests de durée de vie sur le produit fini, donc ils vont l'avoir l'étiré le plus rapidement possible, puis bien souvent, ça va être des aliments qui bien souvent vont se rendre un petit peu plus loin, qui vont avoir des charcuteries, qui vont être un aliment qui est un petit peu plus salé, où des gens vont rajouter quelques additifs alimentaires comme du benzoate, des nitrites qui vont être rajoutés dans l'aliment, qui vont faire qu'on va gagner 2, 3, 4, 5, 10 jours de plus pour le même aliment. Okay. Donc, puis même quand il est rendu à la fin de vie, le but, quand on met des additifs, c'est d'éviter que des pathogènes s'y installent. Donc, à la maison, nous, parce que la manière qu'on fait à manger, on n'a pas eu de cours en restauration de comment manipuler les aliments ou comment les entreposer comme il faut, bien, après 4 jours, puis comme je vous dis là, ça ne veut pas dire qu'à la 5e journée, vous allez être malade. Ça veut juste dire que microbiologiquement parlant, il y a une croissance anormalement élevée qui se fait à partir de la 4e journée qui fait en sorte que ton produit, plus il y a des bactéries qui poussent dedans, plus il peut y avoir un risque qu'un pathogène s'y installe. Mais moi, je vous dis 4 jours. Il y a des gens qui se rendent à 6-7 jours et ne sont pas malades. Mais je vous dis que scientifiquement parlant, bactériologiquement parlant, le risque commence à partir de 4 jours.
Pourquoi on n'en canne pas toutes?
Bien, ça, c'est une bonne question. Parce que le canning en tant que tel, quand on le canne, il y a une manière de l'encanner. Hein? Ouais. Faut faire l'aliment idéalement bouilli ou très chaud, qu'on va le mettre dans un aliment stérile qui va, mettons qu'on met ça dans une canne, exemple, un pot maçon, ça fait « poc ». Le fait de faire « poc » comme ça, c'est qu'on vient d'éliminer toute forme d'air à l'intérieur du canning. Fait que quand il fait « comme ça, on l'entend, fait que l'air en tant que tel est essentiel à la croissance de bactéries. Donc, quand on a un aliment sous vide, un aliment qui est dans une canne, un aliment qui est dans un pot maçon, bien, lui, à sorte, la durée de vie va être beaucoup plus longue parce qu'en absence d'air, les bactéries ne se développent pas. De sorte qu'il n'y en aura jamais plus un mois après, 2 mois, 3 mois, 4 mois après. Donc, c'est pour ça que les conserves, l'industrie du conserve, lorsqu'elle est bien employée, peut avoir des durées de vie d'un an, 2 ans, 3 ans. Donc, la seule affaire qui peut arriver avec le temps, c'est que si tu t'entreposes ta conserve à un endroit qui est plus chaud, plus humide à la longue, bien, l'intérieur va changer de couleur ou le goût va changer.
Parlant de conserve, celle que tu mets au frigo, là, faut-tu absolument que tu fasses un transfert dans un plat ou mettons que ma soupe aux tomates, là, quand j'ai utilisé la moitié du pot pour mes pâtes, je décide de la laisser comme ça, ouverte dans le frigo. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien?
Ah, c'est une bonne question, ça.
Bien, moi, en tant que tel, je recommande tout le temps de maximum, si tu es pour garder ta canne plus que 24-48 heures au frigo, de faire le transfert.
Okay.
La raison, c'est parce que ta canne n'est pas 100 % étanche. Il y a toujours un petit trou dedans. Fait que l'air va rentrer dedans. Donc, en tant que tel, va probablement stimuler les bactéries. Deuxièmement, ta canne est en métal. quand tu coupes ton métal, il y a de la rouille qui commence à se faire au joint où est-ce que tu as coupé avec ton ouvre-canne. Il y a de la rouille qui commence à s'installer et la rouille peut créer de l'interférence au niveau du goût. Du goût de soupe tomate qui est beaucoup plus acide ou que tu prends un jus de citron très acide. Donc, ta canne en tant que telle va altérer, si tu veux, le goût de l'aliment que tu mets dedans. Donc, nous, on recommande que si tu es pour garder... Il y a à peu près juste le sirop d'érable là, qui n'a pas d'effet secondaire parce que le sirop d'érable, c'est tellement sucré que les bactéries n'aiment pas ça puis ça ne change pas le goût. Mais par contre, une canne de fruits, une canne de soupe, une canne de peu importe le produit qui était canné, ben moi, je recommande que si tu la consommes pas dans les 24-48 heures, de la transférer dans un contenant étanche.
Fait qu'on est une coupe à devoir faire le ménage de notre frigo puis les vieux condiments qui traînent en arrière puis ces affaires-là. Là.
Oui. OK. Hey, oui, effectivement. Marc, d'autres questions. Quand on regarde certains endroits, quand on va en Amérique du Sud, les gens en Amérique du Sud conservent leurs œufs à température pièce. Oui. Nous, de notre côté, quand on va à l'épicerie, nos œufs sont déjà dans le frigidaire, puis on a toujours fait la même affaire et avec raison. Pourquoi eux, en Amérique du Sud, peuvent se permettre d'avoir des œufs qui mettent à température pièce et de les conserver longtemps, tandis que nous autres, on est obligés de mettre ça dans le frigidaire?
Bien, écoute, un œuf, en tant que tel, peut rester à température pièce très longtemps. Parce qu'un œuf, en tant que tel, il n'y a pas de rien qui pourrait faire en sorte qu'à la longue, il va devenir pathogène. Puis, sais-tu c'est quoi le truc pour savoir si un œuf est passé date?
Non.
Tu prends un œuf, tu le mets dans un verre d'eau. S'il cale au fond, ton œuf est bon à manger. S'il flotte, ça veut dire qu'il a commencé à se dégrader à l'intérieur de celui-ci.
Donc,
il va flotter. Fait que ça, si vos œufs flottent, ça veut dire qu'ils sont plus bons à consommer.
Parce qu'il y a une production d'air à l'intérieur?
Bien, une coquille d'œuf en tant que telle, c'est pas étanche. Il faut que l'air passe un peu au travers pareil. Donc, c'est sûr qu'à la longue, puis surtout si vous prenez votre œuf, puis je vais faire un parallèle pour la conservation des œufs, là. Je pense que ça va peut-être répondre à la question. Les œufs en tant que tels, les gens qui décident d'enlever les œufs du contenant, puis de les mettre dans la porte du frigo. Bien, souvent, les anciens frigos, il y avait une petite place qu'on pouvait mettre les œufs.
Ouais.
On les met un par un.
Ouais.
Et on laissait ça là. Ou on laissait les œufs dans un plat pas hermétique, de sorte que la lumière passe au travers. C'est la pire affaire à faire. Un œuf doit toujours rester à l'obscurité le plus possible parce que le soleil ou l'éclairage fait en sorte que ta coquille d'œuf n'est pas étanche à 100% au rayon du soleil ou même la lumière. Et la lumière peut altérer ton œuf et le faire vieillir prématurément. Donc, ne laissez jamais aussi des œufs ou même du lait ou des produits périssables dans la porte du frigo. Moi, quand je vois quelqu'un mettre de la crème, du lait, exemple, des œufs dans la porte du frigo, c'est la pire affaire à faire. Savais-tu pourquoi? La raison, c'est que ta porte de frigo, tu la rouvres combien de fois par jour? 10, 15, 20, 30 fois. Si tu as des enfants,
ouais.
C'est aux minutes, là.
Ouais.
et le problème, c'est quand tu rouvres la porte de frigo, elle n'est plus à 4 degrés. Là, elle est exposée à la température ambiante de ta maison. Fait qu'elle, elle passe de 4 degrés, 20 degrés. 4 degrés, 20 degrés. Fais ça 25 fois par jour. Fait que ton lait n'est plus conservé à 4 degrés constamment, comme s'il était positionné au milieu de ton frigo. De sorte que tout ce que tu mets dans la porte du frigo, il faut que ce soit des affaires qui vont se dégrader très tranquillement. Donc, jamais mettre du frais dans une porte de frigo, des œufs, du lait, par exemple, de la crème, parce que votre durée de vie va diminuer drastiquement.
Fait que les frigos sont vraiment mal faits, Marc.
Bien, il faudrait enseigner de dire que qu'est-ce qui est périssable, on le met au centre du frigo et le plus au fond, pour qu'il soit le moins exposé aux variations de température. De sorte que qu'est-ce qu'on met vraiment plus en avant, bien, ça va être comme les fruits, les légumes, les jus, la liqueur. Ça ne dérange pas. Ça peut durer longtemps. Mais qu'est-ce qui est périssable? Moi, je pense tout le temps au lait, les œufs ou les produits carnés. Laissez pas du jambon traîner dans la porte du frigo. C'est sûr qu'il va se dégrader plus rapidement.
Les condiments comme le ketchup, la moutarde, je me suis déjà souvent ostinée parce que moi, je veux mettre ça dans le frigo, mais il y en a certains qui gardent ça dans l'armoire.
Oui. Ah, c'est intéressant. Tu essaies de régler tes comptes ici avec les réponses de Marc Hamilton.
Toujours.
Chez vous.
Moi, je me sers des professionnels.
Ah, voilà. Ouais.
Bien, écoute, c'est sûr que si tu fais ton ketchup maison ou ta mayonnaise maison, je te conseille pas de garder à température pièce. Exemple, si on prend une mayonnaise maison, là, où est-ce que tu fais de l'huile puis des œufs, tu brosses ça, puis tu la laisses sur la table, c'est pas long, après même 4 ou 5 heures, qu'elle va virer, puis elle sera plus consommable, tu vas te rendre malade à les manger. Mm. qu'est-ce qui fait que le ketchup, la moutarde ou la mayonnaise commerciale qu'on achète peuvent être gardées à température pièce longtemps? C'est parce qu'il y a des additifs dedans. Le ketchup, lui, s'il est beaucoup vinaigré, le vinaigre est un antimicrobien naturel. La moutarde, c'est la même chose. Mais la mayonnaise, si la mayonnaise que vous achetez est commerciale, généralement, elle se tolère longtemps à température pièce sans qu'elle puisse virer. Souvent, c'est ce qu'on voit dans les restaurants. Hein? Bien, souvent, les restaurants, tu vas voir un pot de mayonnaise, du ketchup, mais on les laisse là, puis sont souvent rarement au frigo. C'est pour ces raisons-là. Ça cause des additifs qu'on y a rajoutés qui fait la durée de vie plus longue.
Bon, est-ce qu'on sait, Marc? Est-ce qu'on sait, Marc, qu'est-ce qui détermine la cuisson d'un aliment? Puis pourquoi, exemple, quand on fait des tartares, moi j'aime bien manger les tartares de bœuf, tartares de bison de l'atelier, je sais pas si ils l'ont encore, mais quand ils l'avaient, j'étais tout le temps là. Quelle est l'importance de la cuisson pour la viande? Puis qu'est-ce qui fait en sorte que quand on peut consommer tartare, cette viande-là, techniquement, elle n'est pas cuite, mais avec ce qu'on met comme ingrédient, c'est ça qui fait disparaître peut-être les bactéries.
L'ingrédient qu'on rajoute, l'épice, n'empêchera pas les bactéries de pousser.
Oh, OK.
La différence, c'est entre le steak haché et une pièce noble, comme exemple, le filet mignon qu'on va prendre pour faire du tartare. Le filet mignon n'a pas ou très peu été manipulé par l'être humain. De sorte qu'une viande de bœuf, le bœuf lui-même, dans sa viande, un filet mignon, c'est exempt de bactéries. Il n'y en a pas dedans. Qu'est-ce qui fait qu'un steak haché, il faut toujours bien le faire cuire? Parce que le steak haché, c'est des restants de viande qui a été coupé ici et là par le boucher. Et il va mettre ça dans un robot. Puis là, il va mettre ses mains au travers. Le robot va le manipuler. Puis là, à un moment donné, ce qui sort, c'est un melting pot de un paquet de viande qui peut être un mélange de filet mignon, de steak Boston, peu importe, qui a été manipulé plusieurs fois par l'être humain.
Ouais.
Et on y a déjà mis des bactéries avant de l'emballage.
On va-tu te perdre, Audrey?
Mais si tu prends n'importe quelle viande noble, que ce soit de la viande de bois, que ce soit du bison, que ce soit du bœuf, dès qu'on la prend, tu prends un bon filet mignon de chevreuil ou un filet mignon d'orignal ou un filet mignon de bœuf, tu vas le prendre, tu le coupes, puis tu vas pouvoir faire un tartare avec. Et à moins que tu aies les mains bien sales, à moins que ton couteau soit contaminé, les risques que tu te contamines sont très, 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 très faibles.
Donc, techniquement, la consommation de viande crue n'est pas néfaste pour l'être humain.
Non, tant qu'elle n'est pas passée date.
Ah, c'est intéressant. Puis il y a un conflit de génération parce que tu as certainement vu ça, toi. Quand on était jeune enfant, nos grands-pères allaient chez le boucher, revenaient avec du steak haché, mettaient un peu de sel, un peu de poivre, merci, bonsoir, ils mangeaient ça.
Dans ce temps-là, c'était toléré parce que tu savais c'était qui ton boucher, tu savais qu'est-ce qu'il faisait. Généralement, ces gens-là avaient développé des anticorps parce qu'on mangeait du steak haché cru. Donc, c'est une autre mœurs, autre temps.
Oui.
Mais la seule viande que je ne recommande pas de manger cru, c'est le poulet.
Oh!
Tu verras jamais ça, un tartare de poulet. Là.
Mais non!
même un tartare de porc.
Hein?
C'est des bactéries qui sont naturellement pouvantant contaminées par, entre autres, la salmonelle.
Mais ça, j'ai réagi parce qu'au resto, quand j'étais dans la restauration, vers 16-17 ans, on avait du tartare. Puis c'était du tartare de bœuf à l'époque, puis avec fait avec du filet mignon et tout ça. Puis les gens qui venaient au resto disaient « Ouais, avez-vous du tartare de poulet? » Puis là, je sais pas si c'était une blague ou si la personne, c'était juste quelqu'un qui n'avait pas été éduqué
non,
sur
ça,
le fait
que
du tartare de poulet. Bien, souvent, Audrey, les gens n'étaient pas connaisseurs de ça. Ils voyaient un tartare, c'était des nouveautés. Toi, t'es né, le tartare existait, mais pour eux, c'était comme des nouveautés. Puis ils disaient « OK, j'ai jamais mangé ça. Il y en a au bœuf, mais est-ce qu'il y en a au poulet aussi? » Là, fallait que tu attendes comme 2-3 secondes à savoir, es-tu en train de te tester ou c'est un manque d'éducation sur le sujet? Là?
Parce que c'est drôle, moi, tu vois, j'ai toujours su qu'il fallait pas que je mange de poulet cru sans même comprendre pourquoi. Il fallait juste pas que j'en mange. Je pense que le message s'était passé sans explication. Il y a un texto qui est entré qui dit « Marc, je fais beaucoup de bouffe puis je congèle sous vide. J'ai mangé hier, par exemple, un pain de viande de 1 an et demi. Au goût, super bon. Est-ce que c'est dangereux de manger du congelé sous vide après tout ce temps-là? »
Le congelé, le problème qu'on a, c'est que c'est pas que les bactéries vont finir par dégrader le produit. C'est bien souvent le fait de garder un aliment à moins 20 degrés pendant un an, ça va brûler la viande. La viande, parce qu'elle a été, tu sais, d'être à l'extrême froid versus l'extrême chaud, à la longue, la viande va changer de couleur, le goût va changer de couleur et on aura l'attention que, voyons, il me semble que mon aliment a brûlé. Donc, c'est sûr que si on a capable de mettre sous vide avec un papier assez épais sous vide, qui fait en sorte qu'il ne soit pas attaqué par l'extrême froid pendant des longues périodes. Oui, on peut garder des aliments 6 mois, 1 an, 2 ans sans nécessairement de problème. Donc, le problème, c'est la dégradation due à le froid qui fait en sorte que l'aliment va avoir un goût qu'on ne voudra pas avoir après 1 an et demi. Bien, généralement, si on a des bonnes techniques sous vide avec des bons produits, oui, on peut se rendre longtemps.
OK. Dans le temps, là, j'espère qu'il y en a qui font plus ça, là, mais moi, je me souviens que, je ne sais pas, moi, nos grands-mères, quand on faisait de la pizza ou de la lasagne ou peu importe, ils remettaient le repas dans le four, puis on remangeait le lendemain, puis on remangeait le surlendemain, puis on ne mettait pas ça au frigo. Yeah! Qu'est-ce que t'en penses? Ah,
bien, ça dépend toujours des ingrédients qu'on met. C'est sûr qu'une pâte comme du pain, ça pas comme du pain, ça va rester longtemps à température fraîche. Du fromage, s'il n'y a pas de problème. Le pepperoni, c'est un produit ultra transformé qui contient des quantités phénoménales de produits antimicrobiens, des produits de conservation de longue date. Il reste la sauce tomate, mais la sauce tomate, c'est pas un produit qui se dégrade rapidement non plus. C'est pas comme si on mettait, exemple, des viandes crues ou des choses du genre. Exemple, il y aurait peut-être juste le steak haché, quelqu'un qui met du steak haché sur sa pizza, qui pourrait avoir une dégradation de son steak haché plus rapidement. Mais si on prend une pizza all dress, où est-ce qu'on a des piments, de la sauce tomate, du fromage, du pepperoni, moi, il y a des gens qui... J'ai jamais fait de test en laboratoire, mais je ne verrais aucun problème de garder ça à température pièce quasiment 48 heures.
Ah oui, le fromage, ça me surprend. J'aurais pensé que c'était l'affaire qui faisait que tu ne pouvais pas garder ça. Fait que c'est une bonne information.
Ah, du tout. Le fromage, c'est des produits fermentés. Et les produits fermentés font en sorte qu'il y a une concentration de gras beaucoup plus que de concentration de bactéries. Et les bactéries, bien souvent, on va les flusher avec le lactosérum. Et qu'est-ce qui va rester? Il faut penser, quand on fait du fromage, les bactéries servent à quoi? Il sert à agglutiner le gras du fromage pour en faire une partie solide. Donc, les bactéries qui sont dans le fromage ne sont aucunement pathogènes. Et ce qui fait que le fromage, parce qu'il est fait avec du lait pasteurisé, n'a peu ou très, très peu présent, ou quasiment impossible d'avoir des produits, des bactéries pathogènes, qui fait qu'ils se conservent longtemps même à température pièce.
Mais qu'est-ce qui fait que des fois, il y a des pièces de fromage qui ont un peu de verre dessus?
Ça, c'est voulu. Ça, c'est voulu. C'est des produits qui sont... Bien souvent, on va prendre un fromage bleu, quelque chose du genre. Et c'est des moisissures qui fait qu'on va aller chercher le petit goût qu'on veut et que c'est des moisissures qui sont totalement comestibles.
Audrey, j'ai le goût de terminer avec Marc Hamilton, microbiologiste, avec cette question-là, si tu le veux bien. Qu'est-ce qui fait, Marc, que la vie reprend dans une viande morte et pourquoi le processus s'entame de cette façon-là?
Bien, écoutez, c'est la nature qui veut ainsi. Faut penser que les bactéries, les moisissures... on a des centaines de millions de bactéries dans notre corps, sur notre peau. C'est notre système immunitaire qui empêche les bactéries de nous manger, si tu veux, on les contient. La journée qu'on décède, c'est pas long, après une journée, 2 jours, 3 jours, même si tu fais rien, ton corps commence à se dégrader par en dedans.
Donc, il y a une forme de vie qui reprend à l'intérieur de nous.
Et les bactéries que ton système immunitaire contrôlait, ton système immunitaire étant mort, des bactéries prennent tout l'espace. Fait qu'ils vont commencer à manger tes tissus, ils vont manger ton sang, ils vont manger ta peau. Et après ça, qu'est-ce qui arrive? Bien, souvent, les gens disent, bien, Marc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on voit des vers nous sortir du nez? Tu sais, les fameux asticots. Là. Bien, souvent, quand tu vois une viande ou un animal mort, tu vois un paquet d'asticots le manger. Ces asticots-là ne sont pas en dedans de vous. Ces asticots-là viennent de nos fameuses mouches à marde. Tu sais, c'est quoi des mouches à marde? Des mouches que tu vois là, qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se dégrade, des mouches sont autour. Les mouches qu'on voit de ce type-là vont pondre des œufs. Ça pond des milliers d'œufs par jour. Ils vont pondre des œufs dans des produits qui sont en dégradation. Et c'est voulu, la nature est faite comme ça. Ouais. Les petits œufs de la mouche vont manger la viande en décomposition qui va permettre à l'œuf d'éclore et de faire un asticot. Et cet asticot-là, c'est le petit ver blanc qui sort de partout quand quelque chose se dégrade. Et ce petit ver blanc, si on ne fait rien, va se transformer en mouche. Et le cycle de vie continue. Ouais. Ce qui fait que tu deviens poussière dans très peu de temps. La nature reprend ce qu'elle a laissé. Quand il dit poussière, tu redeviens poussière. Oui. Ben, ça revient à cette expression.
C'est un vieux sage qui avait dit ça. Marc Hamilton, c'est toujours un plaisir de te jaser. J'espère qu'Audrey va t'offrir jusqu'à la fin de l'émission.
Là. J'ai appris tellement d'affaires. Puis je tiens à te transmettre. Marc, il y a des gens qui disent que c'est vraiment très intéressant. L'entrevue va être sur le bnd.fm en passant.
Marc Hamilton est microbiologiste, c'est le PDG des laboratoires Eurofin Environnex. Je te souhaite de passer une belle fin de journée. Marc, je te laisse faire le tour parce que je sais que tu es un passionné de voitures. Là, je comprends juste pas pourquoi tu n'as pas amené ta DeLorean ici.
Ouais, peut-être un petit peu trop vieille par rapport à ce qu'on voit ici, mais ouais. Ça dépend. Il y a l'extrême vieux ici que je vois, les voitures des années 30,
ouais. Mais
elle n'est pas là cette année.
Audrey, on fait une courte pause et on revient.
Yes. Rage against the...